Eh bien, bonjour, bonsoir à tous plutôt, et merci d'être au rendez-vous de cette soirée qu'on a présentée un peu comme la clôture des rencontres. Vous savez que les rencontres cette année étaient dans une période intermédiaire, car maintenant c'est plus un festival, on s'est constitué en collectif, mais on compte bien continuer dans 2 ans avec un nouvel horizon. Donc je voudrais remercier bien sûr Nathalie Herginot qui nous reçoit ce soir et son équipe, Corinne Guercy, qui nous a aussi aidé pour la fête de la photographie et qui ce soir reçoit Jörg Bader du Centre de photographie de Genève avec 2 artistes qui sont présents, donc Sébastien Le Seigneur qui est à droite et Marco Poloni. Et puis on verra aussi les travaux du collectif Desert Med sur les îles désertiques de la Méditerranée. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Jörg pour cette soirée. Merci à tous.
Bonsoir, merci beaucoup pour être venus si nombreux. Un grand merci aussi à Nathalie Herginot qui nous accueille pour la 2e fois consécutive et à Corinne Guercy qui rend possible sur un plan logistique ces soirées. Je peux déjà annoncer qu'on va organiser une réciproque lors de la Triennale de la photographie que nous organisons à Genève dans le cadre des 50 JPEG 2013, où Jules Verneret organisera une soirée de projection dans la thématique qu'on a décidée pour 2013 qui s'appelle « False Fakes », c'est-à-dire « Faux, faux ». D'ailleurs, une thématique qui n'est pas éloignée des préoccupations de Jules Verneret. Donc, la thématique, ces rencontres ont tourné autour de la Méditerranée. J'ai pu faire un tour samedi passé pour voir les expositions. Et comme c'était à attendre avec Gilles, on est évidemment très loin des clichés tels qu'on pourrait s'imaginer quand on entend Méditerranée. Et je crois que cette soirée va être une prolongation dans cet esprit d'attirer l'attention sur des données et des faits qui concernent la Méditerranée et qui sont loin de la chanson. Je sais plus, c'est qui ? C'est Tino Rossi qui chante ça ? Je sais pas. C'est Tino Rossi. Donc, il y avait déjà, un mot aussi au sujet des différents médiums choisis. C'est vrai qu'il s'agit de rencontres photographiques. Ici, j'ai un peu l'habitude, dans de tels cadres, d'ouvrir un peu le spectre, car il me semble toujours difficile de nos jours de rester mono-média, c'est-à-dire de se consacrer exclusivement à une manière de faire des images. Et donc, j'ai l'habitude de, disons, travailler avec des images optiques qui sont faites avec des caméras, que ce soit l'image mouvement ou l'image fixe. Donc, nous allons ouvrir la soirée avec une contribution du collectif Desert Med. C'est surtout à travers l'intermède de Armin Linke, avec qui je travaille déjà depuis un moment. Il est d'ailleurs actuellement co-commissaire d'une exposition qui va encore durer jusqu'au 24 novembre au Centre de la photographie à Genève, qui s'appelle Double Économie. J'en parle de son engagement pour cette exposition parce que justement, Armin Linke, par exemple, me semble intéressant parmi ses producteurs d'images d'aujourd'hui, et on reviendra aussi dans le cadre de cette soirée, de ces personnes qui travaillent avec des images optiques aujourd'hui et qui ne, pardon, et qui ne sont pas seulement producteurs, mais qui sont, comme nous tous, producteurs, diffuseurs, récepteurs. Et de plus en plus, nous assistons à ce que des cinéastes ou des photographes travaillent avec du matériel existant ou avec du matériel qu'ils ont glané à gauche, à droite, que ce soit, comme par exemple dans Double Économie à Genève, d'une archive existant, ou qui se mettent en collectif et qui travaillent aussi avec le matériel de leurs collègues. Quand je parle d'un collectif Desert Med, qui est constitué principalement d'artistes italiens, dont Giulia De Lenarda, Amadeo Martegani, Giovanna Silva, ça nous fait penser évidemment à un autre collectif italien qui, dans les premières années de 2000, ont déjà fait un travail au sujet de la Méditerranée. Je fais allusion au collectif Multiplicity qu'on a pu découvrir à la Documenta, si je me trompe, de Ukvi Envisor en 2002, et qui avait cette spécificité de traiter la Méditerranée comme une terre, comme un lieu fixe, comme un lieu qui a des routes, qui a des habitants, qui est loin de un grand étang où on se baigne et on passe des vacances on se bronze. Donc le collectif Desert Med traite la Méditerranée à partir de à peu près 200 îles qu'ils ont répertoriées et 70 qu'ils ont visitées qui ne sont pas habitées. Hein, il y a comme une sorte un peu de renversement donc de la proposition de Multiplicity, qui prenait donc ces grands étangs comme une terre fixe et qui d'ailleurs n'était pas si loin quand on pense que par exemple en arabe Sahel ça veut dire rivage et que quand on parle de Jezireh al-Maghreb qui a comme ancienne connotation ou signification en arabe l'île couchant. Donc le Maghreb serait été une île qui serait été entourée de trois mers. Et avec Desert Med, on a une sorte de renversement. Eux, ils traitent des îles de la Méditerranée qui ne sont pas habitées et dont l'aboutissement de leur travail de recherche est un film où ils traitent quatre différents aspects, un traitement industriel de ces îles, un traitement, comme eux ils disent, naturel, un traitement touristique, et il y a en dernier un volet politique qui se joue, disons, dans l'île du Palais de l'Élysée à Paris, et donc vous allez avoir des très belles retrouvailles et des sortes de voyages dans le passé vers le futur. Je ne vais pas en dire plus. Puis nous avons la chance de la présence des deux artistes intervenant dans cette soirée, Marco Poloni à ma droite et Sébastien Le Seigneur à la droite de Marco Poloni, qui chacun vont dire quelques mots d'introduction avant la présentation de leurs travaux. Juste un petit mot en ce qui concerne Sébastien Le Seigneur. Il a répondu à l'invitation pour ce soir, justement dans cet esprit dont j'ai parlé tout à l'heure, de ses producteurs d'images. Lui-même est artiste et travaille pas mal avec de la photographie, mais pas seulement. A plutôt visité et commenté dans des libres associations des travaux déjà existants. Et Marco Poloni va présenter un travail qu'on avait dans le cadre des 50 JPEG 2006 montré au Centre de la photographie à Genève, Displacement Island, et dont on espérait tellement de pouvoir vous présenter ce soir en première le livre que nous avons, sur lequel nous avons travaillé déjà depuis un bon moment. Malheureusement, l'œuvre n'est pas encore sortie de presse, donc l'annonce était trompeuse. Alors, je pense que nous démarrons avec le film du collectif Desert Med, et je passerai après la parole à Sébastien Le Seigneur. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, je vais passer la parole à Sébastien Le Seigneur, qui va montrer... Donc une libre association en texte, en images, autour de la notion de Méditerranée. Sébastien Le Seigneur a intitulé cette présentation « Flou aquatique ou tempête de pixels ».
Bonsoir. Prenons la Méditerranée comme un espace de réfraction. La réfraction, c'est la déviation de l'onde lumineuse de l'air à l'eau. Lorsque l'on regarde une paille dans l'eau, celle-ci paraît fracturée. Quelle structure est-il possible d'imaginer au sein et autour de cet espace de réfraction et de réverbération méditerranéen, dessiné par des touristes, des croisières, des marchandises, des migrants ou encore l'absence de circulation. Dans la pratique des artistes qui seront évoqués, nous pouvons lire un programme historique et sauvage duquel se dégage une information complexe. On est d'accord, au-delà de la manifestation insolite que peut procurer un grand plaisir visuel, le méditerranéen n'est pas le décor d'une méditation métaphysique. Ces artistes cherchent, bon gré mal gré, d'autres tremplins pour sauter hors du gouffre de la contemplation grandiose du spectacle de la mer. Criques, plages, béton, pinèdes, ports, usines, caméras de vidéosurveillance pointées vers l'horizon, tapis de sol flottant, boire cette eau salée, c'est un véhicule, flottaison du déplacement, flacon conducteur d'une multitude, électricité, pétrole, câbles sous-marins, corps, huile d'olive, haschich, guerre, démocratie, déchets chimiques, information. Tout déplacement sur une surface plane qui n'est pas dicté par une nécessité physique est une forme spatiale d'affirmation du soi, qu'il s'agisse de bâtir un empire ou de faire du tourisme. Le travail de Ito Barada fut exposé au Centre de la photographie de Genève fin 2010. Elle a grandi à Tanger, après être née à Paris en 1971. Elle commence avec la photographie comme un outil de recherche et d'investigation. En 1998, elle présente à l'Institut du monde arabe à Paris un travail sur les barrages militaires en Cisjordanie. Elle effectue ensuite un important travail sur le détroit de Gibraltar, intitulé « A Life Full of Holes, The Strait Project ». Qui lui rapporte une reconnaissance internationale, exposition au MoMA, Biennale de Venise, Moderna Musette ou encore la récente Triennale de Paris, intense proximité. Elle s'est intéressée à la ville de Tanger comme force d'attraction sur les habitants de campagnes appauvries, sur les spéculateurs immobiliers et les migrants d'Afrique subsaharienne qui y transitent dans l'espoir de rejoindre l'Europe. Elle fonctionne par chaîne d'associations, joue des ambiguïtés. Dans les flux d'échanges de touristes et de migrants, des palmiers que l'on fait tomber pour construire de l'immobilier et d'autres que l'on plante pour satisfaire à l'exotisme. Elle a étudié les sciences politiques à Paris et la photographie à New York. L'ambiguïté se situe aussi dans la séduction qu'exerce son travail. Le jeune paysan, couronné de fleurs telle une divinité apollinienne, terrible et sublime à la limite du kitsch, cette ambivalence crée sa force, cette capacité à être ce qu'elle pourrait être, à l'image de la pensée spéculative, où la réalité qui la préoccupe n'implique pas tant les choses telles qu'elles sont que la possibilité qu'elles puissent toujours être autrement. Chez elle, il y a donc des ambivalences dans son parcours, dans son style photographique, dans sa façon de pousser notre vision d'un territoire et d'une population dans ses retranchements. Et c'est peut-être cette multiplicité qui entraîne certaines difficultés dans la réception de son travail, voire parfois une hostilité. C'est une caractéristique essentielle de la photographie d'être un outil d'investigation, de faire procédure d'enquête. Un mode de recherche libre, d'opinion indépendante des autorités, des commandes et de la vitesse des médias. L'artiste peut, avec une sorte de point de vue ingénu sur le monde, passer au travers des mailles du filet et activer le frisson de la critique de l'hypercapitalisme. On dit généralement que le photographe va faire appel à des méthodologies de recherche empruntées à des disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, l'histoire. C'est une sorte de pacte entre l'artiste et la discipline pour effleurer la recherche, produire de la connaissance sur la société, mais tout cela instaure en contrepartie un rapport problématique. À l'usage, qu'est-ce que l'on retrouve de ces disciplines face aux travaux ? Au-delà de l'invocation, quelle est l'application ? Cela m'apparaît souvent comme un rapport amoureux, une sorte de flirt. Dans ce rapport se trouve la non-autonomie qui confère au photographique une qualité extraordinaire. C'est une sorte d'étendue vague, une surface indéfinie, en poche, ni au centre, ni à la périphérie d'une ville faite de plusieurs villes. Les sciences humaines, la communication, la littérature, le cinéma, cet énoncé, c'est la dispersion des rapports. Ces rapports exacerbés m'amènent à penser le photographique comme un médium de la colonialité, dans et par le réel et ses moyens d'étude par le regard, un monde entier bouffé par la caméra. Il y a cette vision du collectif d'artistes, d'urbanistes et d'architectes Multiplicity de la Méditerranée comme une sorte de continent en soi structuré par les déplacements à sa surface. Dans Waterworld, un film de Kevin Reynolds avec Kevin Costner et Dennis Hopper sorti en 1995, un mutant homme avec branchies affronte des pirates qui vivent sur un super tanker rouillé. Il n'y a plus de terre, le monde est englouti, les îles sont des atolls de métal façon Far West. Cette catastrophe budgétaire symboliquement très puissante donne la projection d'un monde futur si les eaux montent jusqu'au bout et que tout être vivant, quelle que soit son origine géographique, devient un réfugié ou exilé climatique et nécessairement économique. Le super tanker qui contient en lui les dernières réserves de pétrole finit par exploser et nos héros trouvent enfin leur nouvel Éden. On retrouve dans l'iconographie on retrouve dans le film l'iconographie qui se retrouve dans la série Titanic's Wake de Alan Sekula, lorsqu'il photographie le studio chantier de James Cameron dans la zone frontalière entre le Mexique et la Californie, où le premier monde urbanisé et le tiers monde entrent en collision. Dans la suite de cette iconographie, la catastrophe du Costa Concordia nous a livré quelques perles. Il s'est échoué à proximité de l'île de Giglio en Italie le 13 janvier dernier. Le navire s'est trop approché des côtes et a heurté le récif. Une vidéo dont l'auteur n'a pas été identifié a été diffusée par une chaîne de télévision italienne montrant des images de Francesco Cettino, le commandant du Concordia, et une dizaine de ses collaborateurs complètement dépassés par les événements au moment où ils découvrent que le bateau est en train de chavirer le 13 janvier à proximité des côtes italiennes. On les aperçoit scruter leurs écrans téléphoner, échanger entre eux, calmement au début, puis de plus en plus nerveusement à mesure que les mauvaises nouvelles leur parviennent et que les alarmes retentissent de tous les côtés. À environ 22h15, soit une demi-heure après la collision avec un rocher, personne ne sait quelle initiative il faut prendre. Excepté, semble-t-il, les passagers qui, sans aucun ordre, prennent l'initiative de commencer à évacuer vers la terre ferme. Le 1er février, au lendemain de l'arrêt définitif des recherches, le bilan de la catastrophe a été chiffré à 32 morts par le préfet Franco Gabrielli, commissaire spécial en charge du naufrage. C'est au milieu du 19e siècle, que l'on commence à voir apparaître des croisières nommées auparavant « voyages de plaisir ». C'était alors un tourisme d'élite. Ce sont des classes de luxe. On vend de la distinction sociale. Les voyages des Européens se multiplient dans les pays riverains de la Méditerranée orientale. Aujourd'hui, c'est le luxe pour tous. Des formules vacances qui reposent sur une mythologie de l'aventure, mais on est dans une bulle, une machine vision, pourrait-on dire, un gros tas d'appareils photo qui glissent sur la grosse plaque miroitante de la mer. Ou, comme en parle si bien Henri Michaud dans son Équateur, être seul, très insolent et superbe, sur le grand désert d'eau, le vent vient à toute vitesse sur mon peu de cheveux qu'il secoue, puis il repart à toute vitesse et moi je reste sur le pont. Vient encore ce vent contre ma tête, repart à toute vitesse et Dieu sait quand il rencontrera encore un front et de qui pourrait bien être ce front et ce qu'on pourrait bien avoir à dire de nos deux fronts comparés. Ô navire orgueil, ô capitaine orgueil, passager orgueil, vous qui ne mettez pas de plein pied avec la mer, sauf toutefois au jour du naufrage, ah, alors enfin il s'enfonce le navire avec son jeu complet de mât et sa cheminée. Et ce voyage, mais où est-il donc ce voyage? Boscope grand aveugle qui traverse l'Atlantique, on serait dans un sac, ce serait pareil. Dans Gaza, journal intime 2001-2006, ensemble de photographies en quatre actes, Taizir Batnidji nous donne à voir dans la série La mer, des scènes de bord de mer à Gaza. Ce qu'il nous donne à voir, c'est un arrêt du paysage, une interruption fondamentale dans le rapport au littoral et au territoire. Le Gaza Surf Club fut créé peu de temps après qu'un surfeur californien, Dorian Paskovich, commence à apporter des planches dans la région en 2007, à l'âge de 86 ans. Monsieur Dorian Paskovich participa à l'exportation du surf en Israël en 1956, alors qu'il voulait s'engager dans l'armée israélienne pendant la crise du canal de Suez. C'était impossible car il n'avait pas le passeport israélien, alors à la place, il est allé surfer. Surfing for Peace, une œuvre de charité israélienne, née de ce coup de pub de 2007, développe avec des Palestiniens une économie locale autour du surf. Il y aurait aujourd'hui un peu moins d'une centaine de surfeurs à Gaza. Couvre-feu sur l'eau, plage privée, beach club réservé aux Occidentaux qui travaillent pour l'ONU et autres organismes internationaux. Les deux autres volets de la série de Taizir Batnidji sont intitulés « Chez moi » et « La ville ». Malgré la toile de fond tragique de l'occupation des territoires palestiniens, certaines photographies de ce polyptyque nous renvoient une image assez inhabituelle de Gaza. Je me suis rappelé ce diptyque de Rodney Graham datant de l'année 2000, « Fishing on a Jetty ». L'artiste prend le rôle de Cary Grant qui tente d'échapper à la police dans « To Catch a Thief » de Hitchcock en 1955 avec un costume très douteux pour un pêcheur. Graham rejoue la scène devant Vancouver. On retrouve ainsi une façon d'échapper au visible, de montrer l'invisible, de saisir avec humour certains aspects du réel. Il faut noter que « To Catch a Thief » de Hitchcock, « La main au collet » en français, c'est ce film tourné sur la Côte d'Azur et à Monaco avec la belle Grace Kelly, une histoire d'amour et de vol de bijoux sur la Riviera. Robbie the Cat, après avoir connu des succès sans précédent, voit le fantôme de son passé apparaître. Il est arraché à la douceur de ses vignes méditerranéennes et replonge alors dans un monde de fuite et d'action. Cette mer intérieure, axe Orient-Occident-Afrique, c'est un reflet distordu de nos activités terrestres. une sorte de grosse plaque photosensible qui absorbe de la lumière au fond de son ventre abyssal jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, un embouteillage noir entre épaves, poissons, rochers, méduses. Cette plaque photosensible nous renvoie ondulation lumineuse sur murs d'hiver, réverbération, le reflet intransigeant de nous coincés entre l'éternité et le soleil, la violence et l'économie. En 2004, Philippe Durand se rend au Liban et en revient avec la série Phoenician Billboards. Le thème Phoenician est à relever puisque les Phéniciens sont un peuple antique réputé comme navigateurs et commerçants. Leur territoire comprenait le Liban et certaines parties de la Syrie et de la Palestine. Ils commencent à fonder des comptoirs de commerce en bordure de la Méditerranée orientale dès 3000 avant notre ère et commercent partout avec les Grecs ou encore jusqu'en Andalousie qui est à l'époque la plaque tournante du trafic de minerais. Ils transportent tout ce qui peut s'échanger ou se vendre, vin, huile, grains, blé, dans des amphores, des minerais, des produits de luxe, parfums, pierres précieuses, crocodiles, etc. Chez Philippe Durand apparaissent des panneaux d'affichage publicitaires géants, dressés dos à l'horizon, produits contemporains, whisky Ballantines, blé, lessive, téléphone portable, canapé. Le ton est donné, le commerce, les produits de consommation déterminent un langage multimillénaire commun et stable entre les différentes civilisations du pourtour méditerranéen. Ali Ben Sahab, dans son article « The Militarization of Migration, Frontiers of the Mediterranean », issu de « The Maghreb Connections, Movement of Life Across North Africa », édité par Ursula Biman et Brian Holmes en 2006, fait apparaître que le Maghreb était originalement appelé « Jaziret al-Maghreb », l'île du couchant. Cette idée d'île signifierait que le Maghreb est entouré par trois mers, l'océan Atlantique, la Méditerranée et le Sahara. Image qui se retrouve dans le mot Sahel, dont la signification originale en arabe était rivage. Cher Ndiaye est un artiste sénégalais qui vit quelque part entre Dakar, Lyon, Berlin, New York, Portland, Gand. Il peint, il écrit et fait de la photographie. Cette photographie a une place importante dans sa peinture et vice-versa. Ibn Battuta, géographe arabe, passa à Tombouctou en 1353. Il est intéressant d'observer que lorsque Cheikh Ndiaye voyage au Sénégal, il explore ses pays voisins comme le Mali, la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso, comme nous irions en Autriche ou en Italie. Ibn Battuta est né en 1304 à Tanger. Il a parcouru 120 000 km en 29 ans de voyage à travers le monde, de Tombouctou à la Malaisie, l'Inde, la Chine, en passant par la Bulgarie, le Maghreb, l'Iran, l'Égypte, Mogadiscio, Mombasa, Zanzibar, etc. À l'origine, c'est un simple pèlerin musulman qui profite de la place de l'islam et la langue arabe, du développement du commerce, en caravane et bateau. Au fil de ses rencontres, il devient conseiller ou conteur. Il ramène des observations très variées. Au Caire, il explique que le système fiscal local est basé sur la hauteur de la crue annuelle du Nil, cette crue étant le signe de récoltes plus ou moins abondantes. Il rapporte que si le paradis est sur terre, c'est à Damas et pas ailleurs. Sur la steppe glacée, il se demande comment faire ses ablutions rituelles et des soucis d'eau gelée sur ses moustaches. En Chine, il est accueilli par l'empereur. Aujourd'hui, l'aéroport de Tanger porte son nom, ainsi qu'un mall à Dubaï, l'Ibn Battuta Mall, et également un cratère sur la Lune, sur la mer de la fécondité. En Afrique, ces histoires viennent d'un autre temps irriguer la littérature, mais elles servent aussi comme code social, une sorte de loi de zonage, de l'espace et du temps, basée sur des prohibitions et des incitations émanant de ces histoires. Quand bien même on ne saurait leur donner une signification actuelle, ces histoires témoignent d'une grande capacité à définir dans l'espace et le temps des fonctions et des usages. On peut trouver cette qualité d'évocation dans grand nombre d'objets recyclés qui peuplent le quotidien africain. Le travail de Cher Ndiaye est un terreau documentaire, un langage fait de couches et d'une multitude d'histoires. La portière de voiture gardée par celui qui n'a pas de voiture, mais qui réfléchit aux pièces détachées de la voiture qu'il aura peut-être un jour, c'est déjà un vaisseau spatial devant l'horizon aquatique, l'histoire non pas telle qu'elle est, mais telle qu'elle est possible. Alan Sekula a beaucoup travaillé autour de la question de la mer comme un espace de circulation concret et aquatique des marchandises en miroir de l'immatérialité de l'économie capitaliste. Le vestige des migrations économiques, l'espace de la liberté et du travail, le spectaculaire brillant de métal et d'eau des infrastructures maritimes, l'abstraction du conteneur. Au Quattrocento, les riches commerçants vénitiens commandaient à des artistes des icônes, des reproductions de leurs navires marchands pour attirer sur eux la fortuna, la clémence des eaux et des vents, la promesse de s'enrichir. L'économiste Adam Smith développe au XVIIIe siècle la question du risque en économie, notamment celui d'aller sur la mer, dans le hasard et le sublime de la tempête. À notre époque, les compagnies et les assureurs prennent en compte ce facteur risque. Qu'un navire coule et qu'une cargaison soit perdue représente impossible autant que celle de faire fortune. Cette impuissance à une force invisible, la terribilité de la mer, nous renvoie ainsi au sublime. Un conteneur de Sekula ou de Bruno Saralong à la dérive sur la mer, c'est une sorte de pixel dans l'eau dans ce régime de flottaison spéculative. Dans Film Socialisme, Jean-Luc Godard nous propose une traversée au passage d'Alexandrie, la Palestine, Odessa, la Grèce, Naples, Barcelone, sur un bateau de croisière, le fameux Costa Concordia échoué en début d'année. C'est une architecture flottante. Les passagers se déplacent à l'intérieur comme dans un centre commercial. La caméra s'épanouit, tel un médium vivant dans sa multiplicité. Nous passons de l'écume des vagues en haute définition aux danseurs de discothèques en qualité minimum, saturés par les couleurs, le son du vent et les pixels. Basse définition bavarde, bruyante, sensible, la basse définition des images et vidéos au flux sans fin de la Tunisie à la Syrie. Quel est le régime d'apparition, de circulation et de disparition de ces images? Est-il différent de celui des reportages officiels des chaînes de télévision, reportages qui deviennent eux-mêmes des montages en patchwork de tous ces différents régimes de représentation? Comment s'organise leur résistance, leur recensement? Dans l'archéologie en couche des bases de données Internet, les pixels, les manifestants, un pixel égale un manifestant, se perdent à jamais dans les douves de l'information. Tout le travail théorique et de terrain de Jean-Luc Godard dans les années 60 et 70, de Besançon à la Palestine, participe fondamentalement à exprimer les gestes grâce auxquels le cinéma ou la photographie pourraient contribuer à changer l'histoire. Ces agissements créent un laboratoire à ciel ouvert sur les façons d'ouvrir partout des fronts gauches de l'art. Activité collective qui porte la fabrique de l'image à son comble d'intensité en ce qu'elle confronte en permanence une activité symbolique aux limites de son efficacité pratique. Odyssée de l'utopie, monopole de la souffrance, douleur de la révolution. Je cite plusieurs extraits de la journaliste Nicole Brenez qui, dans son article des Cahiers du cinéma de juin 2010, affirme en ce sens que Film Socialisme apparaît au titre de la levée d'un trauma au sens où la puissance des pensées révolutionnaires y redeviennent affirmatives et ne se confondent plus avec le deuil, l'échec ou le refoulement. On retrouve cette intuition d'une levée de trauma dans le film L'Anabase de Mei et Futsako Shigenobu, Masao Adachi et 27 années sans image de l'artiste Éric Baudelaire. Dans une histoire complexe, on suit Masao Adachi, un scénariste et cinéaste radical qui s'est engagé dans la lutte armée et la cause palestinienne. Exilé au Liban pendant 28 ans, fondateur de la théorie du paysage qui permettrait, en filmant le paysage, d'en extraire une critique des structures d'oppression. Et, en parallèle, Futsako Shigenobu, leader des fractions armées rouges japonaises, impliqué dans des attentats meurtriers cachés pendant 30 ans à Beyrouth. Les fractions armées ont ensuite été dispersées pour continuer la lutte avec des moyens légaux. Anabase est à l'origine le titre d'une œuvre de l'Athénien Xénophon qui traite en périple le retour chez soi d'une armée de mercenaires grecs par la Perse, la Mésopotamie. Le film d'Éric Baudelaire, comme un maillon manquant dans l'histoire, offre à voir la mutation de cet héritage où la lutte armée inefficace et meurtrière s'efface. Apparaît alors une image militante lumineuse de l'imagination révolutionnaire à l'action révolutionnaire et vice-versa. La théorie du paysage se développe dans le montage de vues du Liban qui s'entrecroise avec des vues du Japon, des extraits d'archives et de films d'époque. Les surréalistes égyptiens étaient un mouvement dédié à la révolution au sens psychique. L'un des diffuseurs importants de la pensée surréaliste en Égypte était Georges Henin, poète et journaliste, sorte d'écrivain de nulle part, fondateur du mouvement Art et Liberté dans les années 30. Il s'est libéré de Breton en exfiltrant le surréalisme à la Méditerranée, en le déprovincialisant, selon Yves Bonnefoy. Il concevait le surréalisme dans une dimension davantage politique. Au Caire, après la Seconde Guerre mondiale, il se positionne de façon très critique face aux désastres politiques et idéologiques de l'Europe. Dans leur pensée, ils réarrangeaient le monde en accord avec leur fantaisie et leurs désirs, souhaitant concourir en Orient avec l'humanisme européen au développement d'une conscience universelle, déprovincialiser l'intelligence tout en étant hostile au système et à la crampe intellectuelle, hostile à la formation d'une identité arabe étanche à l'altérité, malgré la propension des pays occidentaux à se faire donneur de leçons. Dans les années 50, avec la formation du panarabisme, la voix de Georges Henin est trop décalée pour être entendue. La double appartenance, l'identité métisse, n'est plus entendue. Les intellectuels qui prennent la défense de l'Occident ont le choix de se taire ou de partir. En 1946, il écrit « Si le français, en portant partout les idées révolutionnaires, a favorisé plus tard la subversion des institutions bourgeoises et capitalistes, il n'a pu le faire, semble-t-il, qu'au péril de sa propre vie. En tant qu'occidentaux, nous projetons nos propres fantaisies et désirs à corriger. En tant qu'occidentaux, nous projetons nos propres fantaisies et désirs à propos de l'Égypte, mais nous éprouvons des difficultés et cherchons à les corriger. Les surréalistes égyptiens pourraient nous apprendre qu'il ne s'agit pas de corriger nos désirs et nos fantaisies, mais de les partager et de les laisser vagabonder. Angèle Lessu, photographe genevoise passionnée d'anthropologie, à propos du lien entre son travail et une iconographie aquatique, raconte cette histoire. Drexia est un groupe de techno de Detroit des années 90, proche du label Underground Resistance. Le thème récurrent de Drexia est le monde aquatique, habité par les Drexians, créatures sous-marines semblables à celles qui devaient habiter l'Atlantide. On retrouve derrière ce projet la dénonciation de la condition des Afro-Américains. Les Drexians sont en fait le peuple des esclaves noirs jetés à la mer entre l'Afrique et l'Amérique durant la traite des Noirs. Sont-ils vivants aujourd'hui sous l'eau? Est-ce qu'ils émigrent? Est-ce qu'ils sont parmi nous? Est-ce qu'ils font de la musique ou de la photographie? Il ne s'agit pas là d'attribuer un pouvoir à la photographie, car elle ne domine pas, mais nous emmène dans son domaine, celui d'un savoir par le regard. L'activisme image documentaire, courant sous-marin, un disque dur échoué de plage en plage, ondulation, argent, grains, pixels, redéfinition, répétition, usage, ces éléments sont les pistes d'une photographie spéculative par la parole et le regard. Merci.
Merci beaucoup Sébastien pour cette belle croisière que tu nous as présentée. Peut-être on va tout de suite proposer la parole pour 5-10 minutes au public, s'il y a des questions spécifiques à ton travail, ça me semblerait plus approprié. Comme ça, tu peux, on peut réagir spontanément et toi, tu peux directement répondre. Et après, on passera la parole à Marco Poloni pour la présentation de Displacement Island. Et je crois que c'est la première fois que tu fais ça en projection. Comme d'ailleurs, nous avons eu ce soir une première, une avant-première avec le film d'Armin Linke et de son collectif qui sera montré dans 2 jours à Berlin. Donc, si jamais, ou espérons qu'il y a des questions, des commentaires à faire au sujet de la présentation de Sébastien Le Seigneur.
On va passer tout de suite à Marco Poloni.
Marco, s'il te plaît.
Bonsoir. J'ai des notes. Je ne sais pas encore si je vais lire ou si je vais parler librement. Il y a des passages que je lirai parce que j'ai envie d'être proche de 2-3 textes que je vais citer. Probablement, je parlerai librement. Je suis un artiste italien et suisse. Je travaille essentiellement, enfin, mon travail comprend la photographie, cinéma et installation. Je m'intéresse à des problématiques méditerranéennes depuis, je dirais, au moins 10 ans. Je vais lire peut-être plus précisément, en fait, ce que je fais. Depuis un certain nombre d'années, je tente de construire un indice de problèmes et de trames de la mer Méditerranée. Cette archive documente et reformule des histoires particulières et des scénarios géopolitiques de cette région en se focalisant sur des rapports entre invisibilité sociale et pouvoir, subjectivité et idéologie, action individuelle et changement politique. Donc, comme Jörg l'a annoncé, je vais parler ce soir d'un seul travail, en fait, qui est de 2006. C'est donc un travail qui a déjà quelques années. Qui s'appelle Displacement Island. J'expliquerai plus tard peut-être le sens du titre. Displacement Island, que vous voyez ici, dans sa première présentation au Centre de la photographie de Genève, qui était déjà dirigé par Jörg Bader, en 2006. C'est un ensemble hybride qui comprend 67 images, hybride dans le sens où la source des images est assez variable. Il y a des images qui viennent d'albums de famille, il y a des images que j'ai faites moi-même, des images qui viennent des archives de la NASA, des photographes de films, des cartes postales. Ce sont des images d'assez mauvaise qualité, généralement. Au niveau du dispositif, je vais expliquer un peu plus tard en quoi, comment le travail se constitue. J'ai besoin de m'approcher de l'avant, je m'excuse. Voilà. Donc la plupart des images décrivent l'île de Lampedusa, qui, comme vous savez, a fait la une de la chronique depuis pas mal d'années. Lampedusa se trouve dans un passage stratégique crucial au centre de la Méditerranée, un peu au sud de la Sicile et très proche des côtes de la Libye. En fait, Lampedusa a une plage au moins qui est classée dans les 10 plus belles plages du monde. En fait, l'eau de Lampedusa est absolument transparente, émeraldine, merveilleuse. Donc, c'est une sorte de paradis touristique. Et en même temps, c'est un lieu d'amérissage, d'atterrissage, peut-être, si on peut user d'une parabole spatiale, pour des migrants clandestins qui viennent depuis les côtes de l'Afrique. Je dis migrants clandestins de manière tout à fait neutre, je ne mets aucune coloration dessus, j'utilise le même langage que les agences qui s'occupent de problématiques de réfugiés. En fait, donc, le travail tente d'articuler le décalage entre l'existence de deux figures de déplacés, que sont le touriste et le migrant. Je vais commencer en fait par des considérations d'ordre formel et je vais finir par des commentaires d'ordre politique. En fait, ce n'est pas du tout par souci de formalisme, mais je trouve intéressant de ne pas peut-être trop coller aux images qui sont assez parlantes, mais peut-être de donner une sorte de contexte plus général qui décrit la manière dont je travaille. Ceci, c'est un travail de 2001 qui s'appelle Shadowing the Invisible Man, Script for a Short Film, qui est constitué comme un script pour un film que je ne ferai pas. C'est un ensemble de 54 photographies qui décrivent le passage, ou si vous voulez, le voyage d'un migrant clandestin depuis les côtes de l'Albanie via les Pouilles, donc le sud-est de l'Italie, vers Milan et ensuite une tentative de passer la frontière suisse. On ne voit pas très bien sur ces images le fait qu'elles sont groupées en fait en scènes qui comptent une à six images. Je ne vais pas rentrer dans les détails par des soucis de temps, mais en fait c'est un travail qui est à mi-chemin entre photographie et écriture de scénario dans le sens où ces scènes en fait se constituent comme des éléments narratifs qui sont un peu peut-être à l'opposé de la conception plus classique de la photographie comme un arrêt temporel. Je vais développer un peu plus avant la chose dans ma présentation. Une chose qui m'intéressait aussi, c'était par la quantité d'images, de tenter de rendre compte de la complexité d'une situation. Dans un film de 20 minutes, 40 minutes, 1h30, on peut assez bien décrire une situation géopolitique complexe. Avec 15 images photographiques, c'est très difficile. C'est très, très limité. Et je me suis dit qu'il me fallait une masse critique un peu plus grande. Donc voilà, ça, c'est un ensemble de 54 images qui étaient suivies par une série de 62. Je m'intéressais aussi de manière un peu pas cynique, mais critique, à constituer des ensembles qui soient indigestes, en fait, qui soient très difficiles à consommer par les systèmes de l'art. Et donc, en fait, j'ai eu beaucoup de problèmes parce que, voilà, quand je demandais 20 mètres de mur linéaire, ben, on me disait souvent non. Et je ne voulais pas départir de ma position qui était, voilà, c'était l'espace nécessaire pour présenter ce type de travail. Ceci est un travail de 2005 qui était ma contribution à la Biennale de Venise à l'époque. Déjà ici, je me départis d'une présentation linéaire et je vais plus vers ce qu'on appelle couramment une présentation en nuage. Moi, j'appelle ça une constellation. J'y reviendrai après. Je m'intéressais à dépasser un peu l'idée de certaines idées reçues sur la photographie, sur les manières de présenter les photographies. Et je m'intéressais aussi un peu à éclater l'idée de linéarité et d'aller vers une sorte de circularité qui, selon moi, reflétait un peu mieux la manière dont on appréhende le monde. Vous connaissez bien sûr Wilhelm Flusser. Wilhelm Flusser, pour une philosophie de la photographie, dans le chapitre intitulé « Images », dit qu'en fait, il y a deux modes d'appréhension du monde qui sont le monde linéaire et le monde circulaire. Le monde linéaire, c'est une sorte d'appréhension causale où les choses sont vues dans une chaîne de causalité et c'est donc une perception de type historique. Alors que la perception circulaire, qui correspond plus à la manière dont les images fonctionnent, est une sorte de perception magique où les relations de causalité sont rompues et où des éléments peuvent être répétés plusieurs fois. Je m'intéressais en fait à une sorte de circularité qui ne soit pas seulement contenue à l'intérieur des images, mais à l'intérieur du dispositif de présentation de toutes les images. Je vais lire un passage de Flusser. J'ai de la peine à focaliser à différentes distances. Alors, ceci c'est Flusser. « Cet espace tant propre à l'image n'est autre que le monde de la magie, monde où tout se répète et où toute chose participe à un contexte de signification. » Pareil monde se distingue structurellement de celui de la linéarité historique, où rien ne se répète et où toute chose a des causes et aura des conséquences. Par exemple, dans le monde historique, le lever du soleil est la cause du chant du coq, alors que dans le monde magique, le lever du soleil signifie le chant du coq et le chant du coq signifie le lever du soleil. La signification des images est magique. Voilà, je vais peut-être passer à une autre image. Voilà, ce que je vous avais montré avant, c'était une sorte de layout de production. Celle-ci, c'est la présentation du même travail à Camera Austria à Graz, en Autriche, en 2006, et au Photomuseum de Winterthur en 2006. Là aussi, vous voyez peut-être mieux sur cette image, cette idée de phrasé, si vous voulez. En fait, il y a des séquences d'images qui sont comme des scènes d'un film, et certaines ont des sortes de résonances optiques très claires d'une image à l'autre, et d'autres ont des résonances qui sont d'ordre plus complexe, d'ordre un peu plus sémantique. Je voulais aussi, en fait, je vais peut-être passer. Attendez, qu'est-ce que j'ai maintenant ? Voilà. Je voulais aussi, en fait, avec ce type de présentation, dépasser un peu le statut de, d'unité visuelle que l'on donne à la photographie. Quand on dit une photo, en fait, on dit aussi c'est une image. Elle est toujours bien, elle a toujours besoin d'un contexte, bien sûr, mais elle se suffit elle-même. Et je me disais, mais tiens, ce serait intéressant, en fait, de construire des images qui soient incomplètes, c'est-à-dire des images qui ne peuvent fonctionner que si elles sont mises dans le contexte d'autres images. Exactement comme le cinéma fonctionne, c'est-à-dire une scène n'est pas nécessairement signifiante en soi, mais elle devient signifiante en fonction des scènes qui l'ont précédée et qui l'ont suivie. Vous savez très bien, si on modifie une scène, si on enlève une scène dans un montage, il faut refaire tout le film. Ce n'est pas qu'on peut juste l'enlever et le film va fonctionner. Ça change complètement la balance, l'équilibre des différentes séquences du film. Et en fait, je suis arrivé à un peu à cette idée de constellation que j'opposais à l'idée de condensation. La condensation, voilà, ce serait l'idée de, que le sens d'une image se cristallise en une seule unité visuelle, qui est la photographie. Et la constellation, c'est l'exact opposé, c'est-à-dire le sens est éclaté spatialement en plusieurs images insuffisantes, mais qui, toutes mises ensemble, construisent une sorte de gestalt visuelle, une sorte de méta-image. Voilà, Jean-Christophe Royoux, qui est un critique français, historien d'art aussi, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et qui m'a aidé à formaliser ces idées, en fait, a dit aussi une chose très intéressante, c'est qu'à un moment donné, la constellation devient archive. Le fait de produire des sortes d'images qui ne sont que des strates en elles-mêmes, quand on les regarde dans leur ensemble, il y a constitution d'archives, et c'est très intéressant. Mais ça déborde un peu le contexte de ma présentation de ce soir. Je veux faire un détour par Mallarmé, avec son fameux poème « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard ». Mallarmé est intéressant, donc vous connaissez le poème, je vais présenter quelques images. Mallarmé donc éclate les lignes d'un poème dans la double page, enfin dans l'espace de la page, et en fait ces mots deviennent comme des îles qui habitent une sorte de mer qui est la page blanche. Je m'étais intéressé à la manière, enfin c'est peut-être l'interprétation convenue, mais je la trouve intéressante, la manière dont Mallarmé est peut-être arrivé à « Jamais un coup de dé n'abolira le hasard ». Ceci, c'est des vieilles images, enfin c'est des premières pages du Figaro. Ceci, je crois, c'est 1930. 37, oui, là, j'arrive pas à lire. Vous voyez, quand vous lisez un journal, vous ne lisez pas du tout de la même manière un journal, ou disons plutôt, vous ne regardez pas du tout de la même manière un journal qu'une page d'un livre ou un tableau. Il y a différents titres avec différentes graisses de caractères typographiques qui, en fait, entrent en compétition les unes les autres. Il y a des colonnes avec des caractères très petits. Donc, en fait, l'œil est mobilisé dans une sorte de lecture circulaire. Voici une autre page. Alors, dans celle-ci, on découvre que Colette et Fernandel dormaient sur des matelas dans l'hôpital. ici, des suppléments littéraires du Figaro. Là aussi, vous voyez cette idée de circularité, d'éclatement des informations visuelles. Et voici les pages, quelques pages de Mallarmé. Le poème était aussi intéressant pour moi parce qu'en fait, il abonde en images maritimes. Il y a donc, je ne sais pas où, voilà, il y a la vague, la mer, l'écume, la surface. Paul Valéry, qui semble être la première personne à qui Mallarmé avait montré le manuscrit du poème, dit une chose très intéressante. Je vais citer Valéry. Mallarmé, m'ayant lu le poème Uniment du monde, m'ayant lu le plus uniment du monde, son coup de dé, comme simple préparation à une plus grande surprise, me fit enfin considérer le dispositif. Il me sembla de voir la figure d'une pensée pour la première fois placée dans notre espace. Ici, véritablement, l'étendue parlait, songeait, enfantait des formes temporelles. L'attente, le doute, la concentration étaient choses visibles. Ma vue avait affaire à des silences qui auraient pris corps. Donc c'est assez remarquable que Valéry parle de dispositif, et en même temps souligne l'idée d'intervalle. C'est aussi une idée qui m'intéresse beaucoup, qu'en fait la photographie ne fonctionne pas seulement à l'intérieur des cadres donc qui encadrent les images, mais fonctionne aussi dans les intervalles. Et je vais en parler un petit peu plus tard. C'était très important pour moi d'articuler précisément la notion d'intervalle. Voici un layout de production de Displacement Island. Vous voyez que la forme générale est donc celle d'une constellation. Il y a aussi une idée de vague dans la manière dont les photographies flottent, si j'ose dire, dans l'espace du mur. Dans l'organisation des images, j'utilise un système de gouttière. Vous savez, la gouttière, c'est l'espace qui sépare deux images ou deux blocs de texte dans une publication. J'utilise des harmoniques d'une gouttière donnée. En fait, j'utilise des intervalles de 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 cm pour donner une sorte de rigueur graphique à la présentation. Et ces espaces, en fait, définissent la proximité, si vous voulez, sémantique de différentes images entre elles. Ça, c'est la deuxième présentation de Displacement Island au Kunstverein de Stuttgart en 2007. Je vais passer aux images. Donc, peut-être c'est le moment où mes commentaires seront d'ordre plus politique. Ces images, en fait, correspondent aux doubles pages du livre que Jörg mentionnait, qui sera bientôt donc publié, coédité par le Centre de la photographie et Kodogy Press à Baden, en Suisse. Voilà, par exemple, sur la page de gauche, une image trouvée, ma sœur, dans les années 60, en Sardaigne. Image en page de droite, une vue d'hélicoptère des gardes-côtes italiens qui repère une charrette de la mer avec des migrants probablement en détresse. Ici, une image de la NASA, un astronaute qui se jette dans le vide. Une image de Stromboli, de Rossellini. La mer depuis Lampedusa. Un paysan qui regarde la mer, Lampedusa, le cimetière de Lampedusa. Il y a beaucoup de migrants enterrés dans le cimetière, bien sûr. Le cimetière de bateaux de Lampedusa. Lampedusa est une très petite île qui fait, si je ne me trompe pas, 6 par 1 km à peu près. Donc c'est vraiment une sorte de rocher avec un village principal. Les plages sont magnifiques, les criques sont incroyables. Il y a quelques hôtels dans le village même, quelques maisons à louer dispersées dans l'île. Et à l'intérieur de l'île, il y a ce cimetière de bateaux que les touristes ne voient généralement jamais parce qu'il est au fond d'une vallée. Et c'est là qu'en fait les bateaux des migrants sont déposés. Et alors ça dépend des périodes, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ils sont soit revendus à des pêcheurs qui donc les remettent en état pour les utiliser. J'ai aussi entendu soit donc démantelés et vendus au nord de l'Italie pour fabriquer des meubles en fait avec le bois. Donc en fait il y a une sorte de lecture très matérielle de cette situation qui est simplement la lecture liée au flux des matières en fait qui arrivent et qui repartent. Une vue satellitaire de Lampedusa inversée, une vue de la plage, vous voyez des restes laissés par des migrants lors d'un débarquement. J'ai choisi de ne jamais montrer des migrants parce que, pour un tas de problèmes éthiques, et simplement parce que je ne savais pas comment le faire. Et donc j'ai choisi plutôt de les représenter soit par des traces, soit de manière métaphorique. Les traces sont, par exemple, là vous voyez un gilet que l'on retrouvera dans une autre image, un gilet de sauvetage laissé sur les plages. Laissé sur la plage. Une représentation métaphorique, c'est le chien, bien sûr, le chien errant. Voilà des sortes de triptyques. Un autre triptyque, voici donc par un collage d'ordre optique, une image de la formation des astronautes de la NASA, gilet sauvetage laissé par un migrant, et un photogramme d'un film de série B américain des années 50 qui s'appelle Dem, E, de Douglas Gordon. Dem, c'est bien sûr les extraterrestres, c'est bien sûr les envahisseurs. Hein. Je ne vais pas rentrer peut-être en détail dans la problématique des migrants vus comme envahisseurs du point de vue européen. Toujours des chiens errants, des personnes qui cherchent quelque chose, des sèches, low-tech, satellites de surveillance, high-tech, corvette de la marine militaire, des dauphins, encore des dauphins, un hélicoptère, toujours la marine militaire. Ici, un pêcheur qui s'appelle Giuliano Lombardo, je crois, parce qu'ils étaient trois frères Lombardo. Et donc, j'ai passé quelques jours avec eux sur leur bateau de pêche. À droite, un photogramme de Robinson Crusoe de Buñuel. Mon père avec un poulpe dans la main, ma sœur et moi. Ça, c'est l'image du crâne sur la plage. Vous savez, bien sûr, c'est le vendredi qui a réussi à échapper à sa digestion par les anthropophages qui habitent l'île. À droite, vendredi qui s'échappe. Une famille de Lampedusa, l'île des lapins. Enfin, qui est une sorte de rocher au sud de l'île. Toujours le cimetière des bateaux. Ici, un triptyque qui, au niveau optique, rappelle peut-être le drapeau italien. À gauche, Ulysse dans Le Mépris de Godard. À droite, un détail d'une image de sonar d'un bateau de pêche. Et à droite, une anguille sur un bateau de pêche en train de mourir. Enfin, l'anguille est en train de mourir, pas le bateau de pêche. Une touriste. J'aime beaucoup cette image qui a d'ailleurs plus de succès que les autres parce qu'elle est plus facile à accrocher dans un salon, je crois. En fait, si vous voulez, c'est les ombres projetées de trois bateaux sur le fond sablonneux. Et en fait, à cause de la clarté de l'eau, il y a une sorte de, qui est comme une sorte de fluide optique parfait, les ombres sont très claires. Et si vous voulez, ces ombres, métaphoriquement, signifient les bateaux qui, en fait, n'arrivent pas sur l'île. Vous savez qu'il y a beaucoup d'essais dans le canal de Sicile. Très paradoxalement, d'ailleurs, juste au moment où les réfugiés sont interceptés par des bateaux des gardes côtiers, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que dans l'enthousiasme qui suit le fait d'être repéré par un bateau qui vient les secourir, les pauvres migrants, dirons-nous de manière neutre, se mettent debout et c'est à ce moment que le bateau chavire et que beaucoup d'entre eux se noient. À droite, un photogramme de l'Aventura d'Antonioni. À droite, un chien qui cherche dans des poubelles. Cette image est peut-être un commentaire du fait que les pêcheurs parfois retrouvent des cadavres dans leur filet. Des vues d'avion de l'île. Peut-être une référence à Hitchcock. Donc, c'est des mouettes qui suivent des bateaux de pêche. Low-tech, high-tech, donc la pêche au thon chez Rossellini, la navette Columbia ou Space Challenger, je ne sais jamais. Ici, des bateaux de migrants qui ont été arraisonnés par les gardes côtiers. On ne voit pas de migrants, ce sont simplement des marins. De nouveau, un photogramme de Douglas Gordon, donc des fourmis géantes. Des touristes qui rentrent dans leurs hôtels après une journée au soleil. J'ai oublié de le dire, ceci est une image d'une agence de presse. En fait, dans le travail, il y a aussi un certain nombre d'images de presse que j'ai achetées. Ceci, c'est le centre de détention temporaire qui est situé en bout de piste de l'aéroport de Lampedusa. C'est ici que les migrants... il y a plusieurs centres maintenant, mais c'était le premier centre dans lequel les migrants étaient retenus en attendant que leur sort se décide, que leur rapatriement soit organisé. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, le centre est séparé par un grillage de la piste de l'aéroport, qui est un aéroport très petit, bien sûr, et quand on atterrit à Lampedusa, on est tout de suite sur le tarmac, il n'y a pas de bus qui vous amène dans les bâtiments de l'aéroport, et en fait, on est face à face aux migrants, il y a une sorte de moment hétérotopique, comme ça, où deux réalités qui ne se rencontrent pas et qui se miroitent l'une l'autre, puisque ce sont tous les deux des déplacés qui n'ont pas ce sont tous les deux des figures de déplacés qui n'ont pas nécessairement une vue globale du pourquoi ils sont là. C'est ce moment où leurs regards se rencontrent, en fait, sans que leurs existences puissent jamais être partagées. Ça, c'est une des plus belles plages de l'île. Voilà un avion qui repart avec des migrants rapatriés. Je m'excuse pour la barre de gris, je me rends compte maintenant en fait qu'il y a, c'est un problème technique. De nouveau un sonar, un paquet de Marlboro acheté dans le Maghreb et une corvette des gardes-côtes. Voilà, j'en dis pas trop, je sais pas s'il y a des questions ou des commentaires.
Merci beaucoup, Marco. Une des raisons pourquoi j'apprécie beaucoup ton travail et tes travaux en général, c'est que justement, tu joues avec le hors-champ. Il n'y a jamais tout dans une photo, même dans tes dispositifs qui essayent de cerner. Il y a toujours une part qui échappe. Et je voudrais juste rajouter un détail qui me semble important par rapport à la série que tu as montrée, de ce parcours d'un migrant qui vient d'Albanie, qui rentre par les Pouilles et qui monte vers Milan et qui essaie de rentrer en Suisse. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tu travailles avec, en même temps, même s'il y a ce côté, et combien je le comprends, sceptique envers la photographie et l'image unique, en même temps, souvent tu travailles avec des moyens de la photographie même. Et donc ce qu'on n'a pas pu voir dans la série de ce migrant, c'est qu'il y a toujours quelque part un endroit flou et ce lieu flou dans l'image photographique signifie l'absence du migrant, vu qu'évidemment ils sont pas visibles à nos yeux. J'espère que je l'ai bien dit, mais je pense que tu vas le mieux préciser.
En fait, la série s'est faite en suivant moi-même le parcours de certains migrants. Et en fait, pour pouvoir produire ces images, je devais être dans une sorte d'état, pas de transe ou second, mais une sorte d'état d'attention assez élevé pour pouvoir moi-même croire que j'étais entouré d'autres personnages invisibles. C'est un peu difficile à faire passer, mais ce n'est pas arriver à des sortes de flous signifiants, c'est-à-dire produire des zones ambiguës dans une image qui ne soient vraiment pas ambiguës et qui ne soient pas les illustrations d'un concept ou d'un principe. Il faut un peu y croire, en fait. Et bien sûr, l'idée d'invisibilité n'est pas qui était présentée de manière optique, était un commentaire sur l'idée de l'invisibilité sociale, c'est-à-dire quelqu'un est invisible parce qu'on ne veut pas le voir, pas parce qu'il n'est pas là. Hein. Et en fait, l'inspiration une des inspirations de la série était Invisible Man de Ralph Ellison, qui, vous savez, ce roman américain sur l'existence d'un noir, en fait, qui est bien là et que personne ne veut voir et qui vit dans une cave, dans une sorte d'entresol, si je ne me trompe pas, et dont Jeff Wall a produit une représentation. C'est la fameuse photo de Jeff Wall avec un millier d'ampoules au plafond, le millier d'ampoules parce que c'est un des moyens que l'homme invisible se donne pour se persuader qu'il existe, puisque personne ne veut reconnaître qu'il existe.
Donc peut-être qu'on ouvre le débat à la salle pour des questions, des commentaires.
Il y a une question là-bas. Il faut parler fort parce qu'on
va... Non, le micro arrive.
Pardon, Jérémy.
Bon, moi, c'est d'une façon très amateur hein, que je vais parler. Donc... Il y a quand même, je vais commencer par le point qui me chagrine, c'est-à-dire que je trouve très intéressant l'idée de prendre le principe de mise en page pour répartir des images dans l'espace du mur. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Après, par contre, quand on nous présente les images, on se retrouve face à une image, puis encore une image, puis encore une image. Donc là, je dirais qu'au niveau de la lecture du diaporama, il y a quelque chose qui, pour mon goût, peut-être parce que c'est difficilement présentable, puisque l'installation est grande. Mais voilà, ça, ça fonctionne mieux, je trouve. Par contre, ce qui me plaît énormément, et ça, je tiens à le dire et à le souligner, c'est ce trait qui, pour moi, correspond à l'espace interstitiel, référence aussi à Marcel Duchamp, et qui en fait, est la construction de votre mise en page ou de votre partition. Donc, j'avais envie de parler de ces traits qui font que même d'une seule photo, quand on n'en voit qu'une, bah, effectivement, on n'en a pas qu'une seule. On a un bout et un bout avec le trait, là.
Je crois que c'est Francis Alice qui disait que tout peut vouloir dire n'importe quoi.
Oui, c'est sûr. Mais quel rapport ?
Et en fait, je ne suis pas marxiste-léniniste, mais je suis très matérialiste. Et la seule chose que je peux dire, c'est que simplement un trait technique pour qu'on soit sûr qu'on lit deux pages.
Hein, j'ai pas compris.
C'est simplement un trait technique qu'un graphiste met afin qu'on voit bien qu'il s'agit d'une double page.
Je trouve que c'est ça.
Mais effectivement, peut-être ça génère un espace intéressant qui m'échappe.
Il me semble, à mon idée d'amateur, mais je travaille dans le même sens. Et je trouve que ça fonctionne. On se retrouve dans le 2 ou dans le 3 ou dans le 4 ou dans la composition grâce à la présence de vos traits.
Merci.
Ouais. Merci. C'est pas vraiment une question, mais plus un commentaire. C'est ce qui me surprend dans la liaison des deux présentations. En fait, c'est l'hyperprésence de Warburg. Et même, vous avez parlé de magie à un moment donné. Par rapport à ça, il y a même aussi, on pourrait voir les. Toutes ces images de la Méditerranée me renvoient aussi aux images des déserts des États-Unis, des photos de Warburg. Alors c'est et tout ça est assez, je dirais, troublant, voilà, mais positivement troublant. Et ce qui m'apparaît le plus, c'est comme vous parlez de migration ou de migrants. Moi, j'aimerais l'autre face, la migration des images. C'est-à-dire, vous parlez des migrants en faisant des migrations d'images. Et ça me touche beaucoup, d'une part, et je crois que c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, justement, votre retenue par rapport à avoir représenté, ne pas prendre en photo un migrant, mais de faire des migrations d'images pour que ce migrant soit présent, je trouve l'approche assez judicieuse. Voilà.
Oui, merci d'évoquer Warburg. C'est très intéressant, effectivement. Personnellement, je ne connaissais pas l'Atlas Mnemosyne quand j'avais fait ces travaux. J'en ai pris connaissance il y a 3-4 ans, donc ces travaux précèdent l'information que je pouvais en avoir. Effectivement, il y a une résurgence de l'intérêt de ce concept. Une des questions les plus intéressantes pour moi, c'est pourquoi des idées font surface dans une culture à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi maintenant on parle beaucoup d'Abi Warburg, mais effectivement, votre commentaire est très, très juste. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut commenter.
Et même pour vous, je pense que ce n'est pas exactement par rapport à Mnemosyne la notion d'atlas. C'est-à-dire, je pense que ce n'est pas une approche Didier Huberman, les fantômes. C'est encore autre chose. Ce serait un autre regard encore qui aurait été là chez Warburg, mais pas uniquement la notion d'atlas, et qui me semble être la notion réellement associative en mélangeant le personnel. Qui serait une autre direction de Warburg, enfin, à mon sens.
C'est bien ce que j'ai essayé de souligner au début, c'est que ce qui réunit, entre autres, ces trois positions, de tourner autour de la notion de Méditerranée de façon assez libre et par association, c'est aussi ce qui les réunit aussi, donc je parle là surtout du collectif Desert Med, je parle surtout d'Armin Linke. Ce qui réunit Armin Linke avec Sébastien Leseigneur et Marco Polloni, pour moi, c'est justement cette façon contemporaine, et je pense même incontournable aujourd'hui, de travailler autant avec ses propres images que commenter des images existantes et incorporer dans ses propres travaux des images qui existent déjà. Et dans le cas de Marco, quand il était venu, quand on a commencé à parler d'un projet et qu'il est venu me voir en 2006 et que presque de façon timide t'as hésité de faire glisser une photo de famille ou pas, moi j'étais enthousiaste parce que bien évidemment c'est ainsi que je conçois en tous les cas une façon moderne de contemporaine de vivre avec et contre les images.
Voilà, moi, ça sera plutôt une question technique ou juridique, je ne sais pas trop comment l'appeler, sur les droits d'auteur des images que vous tirez des films. Et puis peut-être, voilà, ça c'est la partie juridique, et la partie technique, c'est comment vous vous procurez, est-ce que vous refaites une reproduction ou est-ce qu'il y a un autre circuit.
Ouais, je réponds. Ouais. Je commence et puis... Ouais. Enfin bon, moi dans ma pratique, j'ai découvert que j'étais un petit poisson. C'est-à-dire que quand on fait un film qui est une très grosse production, donc je parle de plusieurs millions d'euros, et qu'on utilise du footage, du matériel existant produit par d'autres auteurs, effectivement, il faut s'occuper de questions de droits d'auteur. Quand on fait une présentation de photographie qui aura une audience de 600 personnes, et qu'on appelle, je ne sais pas, Sony Corporation ou n'importe quel major américaine ou sa représentation en France, en Suisse,
ou la NASA peut-être.
Ou pardon.
Ou la NASA aussi.
La NASA donne ses images librement. Faites-vous, ce sont les mêmes images que vous pouvez télécharger. L'archive de la NASA est vraiment une archive extraordinaire parce que ce sont des images à très haute résolution. Très belle, libre de droit, que tout le monde peut télécharger. Et en fait, c'est un moyen extraordinaire que les Américains ont trouvé pour propager leur culture, hein, leur manière de voir le monde. Mais pour revenir à la question des droits d'auteur, disons que quand vous appelez un avocat ou un représentant légal d'une de ces compagnies, d'abord, il ne sait pas ce que c'est la photographie. Quand vous lui dites que c'est pour une expo, il ne comprend pas. Puisque ce n'est pas pour le journal ni pour la télévision. Et quand vous lui dites, quand il vous demande combien de spectateurs verront le travail et que vous lui dites 400, 500, 600, vous raccrochez. Mais ça ne les intéresse pas. C'est très matérialiste ce que je dis, mais c'est la pratique qui le montre. Quoi. Là, c'est le travail de terrain qui, si vous voulez, casse la théorie. Quoi. Alors qu'effectivement, si on faisait un travail d'une très grosse production, là, il peut y avoir des problèmes. Il faut absolument s'occuper de questions légales. Je ne sais pas ce que dirait Richard Prince, par exemple, qui a un autre type d'audience au niveau américain, international. À ma connaissance, il n'a jamais eu de problème avec ses images Marlboro, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais là, on parle d'autre chose, bien sûr. Une photographie qui se vend 400 000 dollars, c'est un autre enjeu économique. Mais...
De mon côté, la plupart des photographies des artistes, je les ai prélevées directement sur leur site internet, donc elles sont à disposition. Et ce qui est à noter, c'est dans le cas du film de Jean-Luc Godard, film socialisme, en fait, au moment de sa sortie, il l'avait lui-même mis à disposition sur Mega Vidéo. Donc le film était disponible, il a pratiqué ça. C'est un peu comme du copyleft, en quelque sorte. Et il a fait vivre ce film sous plein de formes. Un livre a aussi été édité à partir de ses textes. Donc, à l'origine de ça, il y a une vision très, très, très épanouie de la migration de ces images.
Si je peux me permettre, par rapport à ce que vous venez de dire sur la liberté des droits de récupération de photos, de photogrammes, de films, je me suis trouvé confronté pour une installation il y a très peu de temps à demander une autorisation à la boîte de production de Wim Wenders pour récupérer des images des Ailes du Désir. Et alors on m'a sorti un listing de tarifs hallucinant qui ramenait le 9-13 à 150 livres, ce qui a rendu totalement impossible d'utiliser ces photogrammes dans le cadre de l'installation que je voulais faire de mise en vis-à-vis de la situation actuelle et de la situation au temps de... Donc, je ne sais pas quel risque j'aurais couru.
Le prix était prohibitif.
Voilà, le prix était prohibitif, absolument. Et je ne sais pas quel... Donc on s'est arrêté, ça a constitué un frein. Vous passez à travers, donc...
Je ne sais pas, je suis en train de travailler sur un... Enfin, je suis en train de travailler sur le terrorisme rouge italien en ce moment, donc ces années 68-79. Je m'intéresse à des images d'Ugo Mulas, photographe milanais assez connu. Donc on a contacté son institution et les photos sont en vente à 300 euros. Quand on a un budget de production, enfin, je ne veux pas faire un statement sur qui a de l'argent, qui n'en a pas, mais quand on a un budget de production, ça va, disons. C'est gérable quand on a besoin de deux images.
Juste une petite anecdote par rapport au quote de Marco. Quand Marco pose la question, qu'est-ce qui se passe dans le cas de Richard Prince quand il refotographie les publicités Marlboro, le contre-effet, c'est que le photographe qui s'appelle Schmid, quand il a vu passer une appropriation de Richard Prince à ces sphères dont même lui, très bien gagnant dans la publicité, n'a jamais osé de rêver, il a commencé lui-même à faire des expositions avec ses photographies de cow-boy et tout heureux de se sentir artiste.
Oui, enfin... Très brièvement, c'est une discussion qui est très complexe, mais en même temps, ce que je trouve très intéressant, c'est que, comme tu dis, il y a une circulation à double sens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vision un peu classique et peut-être un peu dépassée du copyright, qui est si on me vole des images, je suis pénalisé économiquement. Il y a une vision un peu plus contemporaine qui montre qu'en fait, qu'il y a une circulation parallèle qui peut être très intéressante pour l'auteur des images. Mais voilà, c'est un long débat.
Dernière question. Sinon, des remerciements. Merci beaucoup d'être venus nombreux, d'avoir suivi la soirée, en espérant qu'on vous revoie à Genève lorsque Gilles Werneret présentera sa proposition dans le cadre des 50 JPEG à Genève en 2013, juin 2013, et en espérant qu'on se retrouve pour d'autres rendez-vous ici. Merci beaucoup, bonne soirée.